With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous en avez pris l'habitude pendant cette Coupe du Monde quand le FC Stream Team n'est pas là, on parle de toutes les autres nations avec nos correspondants aux quatre coins du monde. Le programme est très riche évidemment ce mercredi puisqu'on commencera par le débrief du tableau final et ses quarts de finale avec Elton Mokolo. On parlera ensuite évidemment de l'adversaire des Bleus, l'Angleterre a-t-elle peur de la France? Philippe Auclair nous éclairera sur ces Three Lions. On enchaînera ensuite avec l'Amérique latine, le Brésil et l'Argentine. Au rendez-vous des quarts, avant une potentielle demi entre les deux équipes, Thomas Goubin fera un tour complet des deux sélections. On enchaînera ensuite avec le Portugal, qualifié brillamment pour les demi, sans Cristiano Ronaldo. Julien Pereira nous expliquera les conséquences de ce choix fort de Fernando Santos. Et on terminera enfin par évoquer la crise du football espagnol, l'Espagne éliminée en huitième de finale après un match caricatural. Anna Caro nous expliquera pourquoi il ne faut pas forcément être très optimiste pour la suite pour cette Roja. Voilà, vous connaissez le programme de Tour du Monde. Alors c'est parti. On commence ce Tour du Monde avec Elton Mokolo, notre journaliste touche-à-tout quant à cette Coupe du Monde. Elton, comment ça va? Est-ce que tu tiens le coup dans cette Coupe du Monde très rythmée?
Bonjour Cyril, j'espère que tout va bien, j'espère que tu vas bien également. C'est une sensation assez bizarre, à savoir que oui, on avait besoin de repos, mais ça fait quand même bizarre de ne pas avoir un match de Coupe du Monde aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Donc on est mercredi au lendemain des huitièmes de finale, des derniers huitièmes de finale. On connaît donc le tableau final de cette Coupe du Monde avec des quarts finalement, j'allais pas dire prévisible, mais où les surprises n'ont pas été aussi nombreuses qu'on aurait pu s'y attendre. Il n'y a qu'une surprise finalement, c'est la présence du Maroc qui est inédite à ce stade de la compétition. On a beaucoup parlé dans ce Tour du Monde avec toi du football asiatique qui se développait, des ambitions légitimes du football africain. Finalement, quand on est arrivé en huitième de finale, les grosses nations se sont un petit peu réveillées, ont serré le jeu et hormis le Maroc, personne n'a réussi à renverser la table.
Après, pour moi, il y a quelque chose de rationnel de voir notamment les grandes équipes monter en puissance, ouais. Parce qu'à partir du moment où tu peux emmagasiner du rythme, du temps de jeu et avoir un caractère compétitif plus développé, et ben ça contribue au fait que les équipes, notamment de pointe, ouais, soient devant. Alors que sur les premiers matchs, il fallait quand même pas oublier qu'il y avait moins d'une semaine de préparation. Mmh. Il y a certaines équipes qui ont pu rajouter un match de préparation. Mais à côté de ça, ça contribue à rendre le début de compétition un peu plus homogène. Là, à mesure que la compétition avance, à mesure que la fatigue aussi s'intensifie, ouais, notamment pour des joueurs, notamment d'équipes qui n'étaient pas forcément attendues au premier tour, qui ont quand même montré des choses, mais qui à un moment donné ont un plafond de verre. Pour moi, c'est logique d'avoir les équipes de pointe qui sont en quart de finale.
C'est marrant parce qu'on a aussi l'impression que chaque jour, il y a eu un des grands favoris qui s'est un petit peu affirmé. C'est-à-dire que on a eu les Pays-Bas et l'Argentine qui se sont rapidement qualifiés pour ce quart de finale en voyant des progrès. Alors, les Pays-Bas, c'est relatif, mais il y a quand même eu un très beau but. L'Argentine, on a vu des progrès aussi. La France, ce match était plutôt maîtrisé face à la Pologne et un Kylian Mbappé qui continue de monter en puissance. L'Angleterre derrière qui met 3-0 face au Sénégal. Et puis, le Brésil, le Portugal qui eux aussi s'affirment dans leur partie de tableau. Laquelle de ces équipes-là, toi, t'as la plus impressionnée peut-être?
Clairement, pour moi, c'est le Portugal. C'est le Portugal parce que, bien évidemment, le Brésil a fait quand même une performance de choix, ouais, face à la Corée du Sud. Mais j'avais dans l'idée, comme je te le disais en off, que le Brésil est une équipe programmée pour, ouais, aller jusqu'au bout le 18 décembre prochain du côté de Doha. Alors que la Corée du Sud, même si elle s'est qualifiée avec beaucoup de mérite pour moi dans sa poule, j'avais dans l'idée que c'est un graal pour la Corée du Sud d'arriver en huitième de finale, encore plus face au Brésil. Ouais. Et donc, ça s'est rapidement ressenti. Par contre, autre. J'avais dans l'idée que la Suisse était un adversaire identifié pour faire mal à une équipe qui était favorite pour aller loin, comme le Portugal. Et là, pour le coup, le Portugal a été convaincant, et ça c'est un élément qui est très important parce que le Portugal s'était qualifié lors de la phase de poule, mais à côté de ça on n'avait pas vu une équipe portugaise qui était convaincante dans le jeu. Là, à la faveur de changements qui ont été payants du côté de Fernando Santos, on a vu une meilleure expression collective, on a vu une équipe beaucoup plus compétitive, on a surtout vu une équipe qui a mis beaucoup de buts.
Alors parmi les 8 équipes qualifiées, on en revient au concept de petites équipes, il y en a 7 qui ont terminé première de leur poule. Ça dit aussi quelque chose de ce tournoi. Peut-être que sur le papier, Maroc-Portugal est le quart le plus déséquilibré, c'est comme ça que tu vois les choses, ou Croatie-Brésil fait partie de ce cas-là aussi.
C'est quand même paradoxal parce que si je devais me fier à ma sensibilité footballistique et surtout à mon ressenti du moment, je te dirais que Brésil-Croatie est l'affiche la plus déséquilibrée. Mais à côté de ça, on parle du Brésil qui affronte la vice-championne du monde en titre. Donc comme quoi, c'est pas si évident. Alors on pourrait se dire Portugal-Maroc, parce que Maroc, on a dans l'idée qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, sauf que le Maroc a pris un but, sauf que le Maroc a affronté la Croatie, la Belgique, l'Espagne, n'a toujours pas pris des buts face à ces trois nations. Ouais. Paradoxalement, ils ont pris un but face au Canada, et encore c'est un CSC. Donc moi, je me dis que le Maroc, c'est une équipe qui a gagné le droit, et j'insiste là-dessus, c'est une équipe qui a gagné le droit de ne pas se fixer de limites, et donc ça rend cet adversaire-là d'autant plus dangereux. Donc moi, je te dirais que Brésil-Croatie est encore sur la notion de déséquilibre, c'est encore relatif, mais je te dirais que c'est l'affiche où le Brésil, parce qu'ils ont montré de très bonnes choses sur la phase de poule et sur le match face à la Corée du Sud, est pour moi au-dessus.
On va revenir un petit peu sur le Maroc, parce que je sens que t'en as envie, Elton. Je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect défensif des choses. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très adaptée au football moderne, avec un Soufiane Amrabat qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui est absolument incroyable. Une charnière qu'on espère pouvoir être établie face au Portugal. Ils peuvent y croire, honnêtement, ils peuvent y croire. D'autant plus que ce Portugal-là, alors, ça a été très impressionnant face à la Suisse, mais jusqu'à présent dans ce tournoi, ça avait un petit peu de mal face à des équipes très bien organisées et ça respirait pas forcément le football chatoyant comme on a pu le voir face à la Suisse qui était malgré tout un petit peu ouverte aux quatre vents.
Le Maroc peut y croire parce qu'effectivement tu as l'assise défensive qui est de grande qualité, qui a contribué à faire déjouer la Croatie, la Belgique et donc l'Espagne. Maintenant, faut pas oublier que là, cette fois-ci, le Maroc va faire face à quelque chose d'inédit pour moi dans cette compétition. Tu vas faire face à une constellation de joueurs offensifs de grande qualité. On sait très bien que du côté de la Croatie, t'es en carence de ça. On sait très bien que du côté de la Belgique, avec un Michy Batshuayi qui n'est pas forcément le Michy Batshuayi des années marseillaises, t'es en carence notamment du talent offensif. On a vu que du côté de l'Espagne, y a une certaine logique de voir Ferran Torres remplaçant au Barça passer à côté de sa rencontre, Asensio remplaçant au Real passer à côté de sa rencontre, Daniel Mo qui n'est pas forcément ailier de formation être moyen, et donc ça a entre guillemets rendu la tâche un peu plus facile au Maroc, même si le Maroc a beaucoup contribué à ça. Maintenant là, tu vas affronter le Portugal avec quand même, par exemple, le meilleur joueur de Serie A, Rafael Leao, qui n'est que remplaçant. T'avais un joueur au Félix qui monte en puissance, t'as eu un Gonçalo Ramos qui première titularisation, met tout le monde d'accord avec un triplé, donc ça va être très intéressant de voir comment le Maroc va répondre à cette nouvelle problématique, à savoir qu'il y a beaucoup de talents offensifs. Et quand je parle de talent offensif, on parle de talent offensif de premier plan.
Un petit mot aussi sur l'Espagne, Elton. Je sais que c'est une équipe qui te tient à cœur. On en parlera évidemment plus en détail avec Anna tout à l'heure. Mais est-ce que cette équipe d'Espagne n'est pas arrivée au bout de quelque chose? Elle sortait d'une élimination en 2018 au tir au but un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elle avait eu le ballon mais qu'elle n'avait pas su trop quoi en faire. Est-ce qu'il faut changer quelque chose peut-être dans la matrice espagnole, et ça va plus loin que le cas Luis Enrique dont on parlera avec Anna.
Et tu sais, mon cher Cyril, c'est dans l'histoire de la Coupe du Monde. Chaque Coupe du Monde, c'est l'occasion de tester la valeur de ton football. Ouais. On sait très bien que derrière des Coupes du Monde, il y a des révolutions qui s'opèrent. On a eu évidemment le fameux exemple de l'Allemagne, on a eu un degré moins l'exemple de la France. À un moment donné, quand tu arrives à la Coupe du Monde, c'est la vitrine de ton football qui est exposée. Et là, on a vu notamment des choses qu'on voit régulièrement en Liga. Et moi, je t'en parle en off, c'est surtout le manque de déséquilibre individuel. Faut pas oublier que j'avais vu un très bon article de El Confidencial en début janvier 2021, ou plutôt début février 2021. La Liga est le championnat où il y a le moins de dribbles. Et ça fait écho à ce qu'on a vu hier. À un moment donné, face à une défense qui est regroupée, il faut quand même faire confiance au talent individuel. Il faut quand même faire confiance, notamment à la qualité de débordement, d'aller provoquer en un contre un. Si tu veux, le Maroc, ok, a fait un grand travail défensif, ouais. Et j'insiste là-dessus, mais c'est pas comme si l'Espagne avait posé des problèmes tactiques et surtout des problèmes individuels, notamment dans cette capacité à attaquer en un contre un. Il y a quand même quelque chose d'édifiant à voir que Nico Williams, qui est quand même le dernier arrivé de la bande, ou quasiment,
ouais,
qui joue à Bilbao, a fait des choses simples, c'est-à-dire je prends le ballon, je vais attaquer mon vis-à-vis en un contre un. Et ça, c'est des choses qui sont élémentaires dans le football d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on voit notamment du côté de la Liga, on privilégie l'assise collective, l'idée de progresser par la passe. La possession est un moyen, mais le dribble est un autre moyen pour te rapprocher du but. Et ça, c'est ce qu'on a vu notamment durant la compétition, avec bien évidemment l'équipe de France du côté de Mbappé, du côté de Dembélé, le Brésil avec Rafinha, avec Vinicius, avec Neymar, le Portugal avec João Félix, par exemple, Rafael Leao en seconde période. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien que la Coupe du Monde, le niveau compétitif, il est ce qu'il est. Et donc, par rapport à ça, c'est un peu plus compliqué de mettre des buts. Il faut aussi faire confiance au talent individuel. Et là, on a vu que l'Espagne, OK, en tant que collectif, Rodrigue le disait en début de compétition, c'est peut-être une équipe de grande qualité. Mais à un moment donné, quand le collectif ne répond pas, il faut des joueurs qui arrivent à sortir du cadre.
Ouais. Dernier petit mot, parce qu'on avait évoqué ensemble, lors de la première émission, la Coupe du Monde des cracks. On en a encore présent en quart de finale, et notamment Jude Bellingham, dont on parlera avec Philippe juste après. Mais je voudrais te lancer maintenant sur les stars qui finalement sont toutes au rendez-vous quasiment. Alors on a perdu les stars belges évidemment, mais Lionel Messi est encore là, Cristiano Ronaldo est encore là. Dans quelles conditions, dans quel rôle, c'est une autre question. Kylian Mbappé est au rendez-vous de sa Coupe du Monde, Neymar est revenu à temps. On se souvient qu'en 2018, ça avait moins été le cas, peut-être. Est-ce que là, il faut s'attendre à ce qu'une équipe soit championne du monde portée par cette individualité qui fait la différence, comme tu le disais, ce joueur qui est à même de changer le cours d'un match sur un dribble, sur une frappe, sur un but. On est sur cette édition 2022 marquée par le talent de ses stars.
Et Cyril, évidemment, le football reste un sport collectif. Il faudra valoriser notamment les joueurs qui font partie de ce collectif, à l'image de l'équipe de France, où tu as Griezmann, tu as Rabiot, tu as Upamecano. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que cette Coupe du Monde va récompenser quelque part l'homme providentiel. Et c'est pas un gros mot, savoir que l'homme providentiel est capable de magnifier notamment ce collectif. Et à ce titre, on voit un Kylian Mbappé qui est la parfaite incarnation, de la même manière qu'un Harry Kane commence à monter en puissance et peut être l'homme providentiel. Même chose pour un Neymar, quand il va emmagasiner un peu plus de rythme après sa blessure. Donc ça fait partie du football, notamment face à des adversaires et tout qui vont t'attendre. Ouais. Il y a beaucoup plus de pression. Et à un moment donné, quand ça devient compliqué, et ben on commence à regarder la star, l'individualité qui va faire la différence. Et t'en as besoin pour voyager loin dans une compétition comme la Coupe du Monde.
Un petit mot évidemment sur le quart qui nous concerne directement. Angleterre-France, on va évoquer l'Angleterre avec Philippe Auclair. Comment tu sens les Bleus dans ce quart de finale? On voit beaucoup de 50-50. Est-ce que tu es de cet avis-là, ou est-ce que tu penses que la qualité intrinsèque française est supérieure à celle des Anglais? C'est compliqué comme question, alors que le réservoir anglais est quand même très impressionnant.
Ouais, parce qu'en face, il y a quand même de beaux bébés. Hein. Ouais. Ça, faut quand même le préciser. Mais du côté de l'équipe de France, ça dégage de la confiance. Parce que c'est une équipe qui, pour moi, est caméléon. C'est une équipe qui est caméléon dans la mesure où elle est capable de te faire mal sur attaque placée, elle est capable de te faire mal en transition. J'ai envie de dire bonne chance quand tu dois poursuivre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Et donc ça contribue à la rendre quelque part imprévisible. Alors qu'on sait que l'Angleterre en face, on sait très bien que sur attaque placée, elle va être en difficulté. Mais par contre, sur le football de transition, comme ils l'ont montré sur les deux premiers buts et même sur le troisième but face au Sénégal, ils sont capables d'être très performants. Donc moi, j'ai envie de dire que la France, à mesure où les matchs s'enchaînent, il y a une confiance qui se dégage. Ça reste toujours une équipe imparfaite, attention, mais quand tu es une équipe imparfaite, c'est pas un gros mot, parce que c'est les qualités propres à cette équipe de France, et j'insiste, à cette équipe de France, avec des blessures qui ont redéfini notamment cette équipe-là, mais ça a contribué à la rendre, pour moi, efficace, parce qu'il y a des joueurs qui, à travers la compétition, se sont révélés. Je fais référence à Upamecano, je fais référence à Rabiot, je fais référence aussi à Ousmane Dembélé, qui avait un rôle marginal dans l'aventure de l'équipe de France, sur le terrain, je précise, et qui a grandi dans cette compétition. Et là, on a une équipe qui s'avance face à l'Angleterre. Alors, je ne sais pas s'ils vont se qualifier, parce que la vérité appartient au terrain. Toujours est-il qu'ils ont des qualités à revendre, ils ont des qualités surtout à faire valoir.
Et ben voilà, je crois qu'on a débriefé en long, en large et en travers le tableau final de ces quarts. Et nous, on va passer tout de suite à l'Angleterre. On va rejoindre Philippe Auclair. Dans Tour du Monde, on se penche évidemment sur le choc potentiellement de ces quarts de finale, celui qui nous concerne. L'équipe de France va affronter l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume-Uni. Salut Philippe. Comment ça va alors qu'on se rapproche dangereusement de ce duel entre voisins et entre ennemis?
Écoute, ça va pas trop mal. À Londres, en ce moment, on célèbre plus les Portugais et les Marocains, parce qu'il y a une très grosse communauté portugaise et une très grosse communauté marocaine juste à côté de chez moi, en plus de ça. Donc, je peux vous garantir que la nuit a été...
Agité,
mais dans le bon sens du terme, au passage. Non, on se prépare à ce choc, on reprend enfin son souffle. Et en fait, s'il y a une chose que moi, que je vois et qui est commune pratiquement à tous les observateurs, mais également les supporters auxquels je puis parler, c'est le fait que tout le monde dit que c'est du 50-50. Okay. Personne n'arrive véritablement à avoir un avis tranché sur la chose, alors que par exemple, si ce choc avait eu lieu en 2018, on aurait dit la France est favorite, etc. Là, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a chez les Anglais la confiance est en train de monter, mais qu'ils essayent de... to keep it in check, de ne pas aller trop loin.
Ok. Ils ont peut-être été vaccinés par les précédents épisodes, j'imagine, c'est ça?
Exactement. Ils se disent, on va être un peu plus calme. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas s'empêcher, évidemment, d'avoir beaucoup d'excitation. Et ils sont emballés, en fait, pour ce match, comme je les ai rarement vus emballés. Ils ne sont pas emballés de la même façon.
Ouais.
C'est-à-dire que je crois que cette fois-ci, ils se disent, on a une vraie chance. Et si on passe l'obstacle de la France, à ce moment-là, la porte nous est ouverte. Ce qui d'ailleurs est un petit problème. Parce que pour eux, c'est déjà une finale avant la lettre. Et je crois d'ailleurs que Gareth Southgate l'a quasiment dit de cette façon-là. Pour nous, c'est une finale. Enfin, il a utilisé une expression qui m'a fait penser attention, après, il devrait y avoir deux autres matchs. Mais bon, il y a de la confiance. Il y a évidemment de la crainte autour de Kylian Mbappé en particulier. Beaucoup de respect et d'admiration pour l'équipe de France, pour les Bleus, avec même une petite touche d'affection, ce qui est assez inhabituel, mais ce qui est peut-être dû au fait qu'on voit des Bleus qui jouent de manière peut-être un peu plus libérée qu'avant, allant plus de l'avant. On chante les louanges d'Antoine Griezmann, par exemple, absolument partout.
Ouais.
Mais malgré tout, on sent qu'il y a une positivité, il y a un sentiment où on aimerait y être, évidemment. Bien sûr. Et en plus de ça, c'est assez inhabituel d'avoir autant de temps entre le dernier match et le match à venir.
C'est vrai.
Ça laisse le temps de mariner, de maturer également, de monter en puissance. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi. Qu'est-ce que ça va être vendredi soir ou samedi matin? Je n'ose pas le dire.
On a un débat qui est en train de naître un petit peu en France, dans la communauté footballistique, sur le miroir que peut être cette équipe d'Angleterre vis-à-vis des Bleus de 2018. À savoir que les Bleus, en 2016, avaient été finalistes de l'Euro. En 2018, ils arrivaient à maturation. Et que finalement, cette équipe anglaise n'a fait que progresser sur ces dernières compétitions et arrive peut-être au moment de bascule. Est-ce que ça aussi, on ose trop l'affirmer en Angleterre par peur du résultat final et d'être déçu? Ou est-ce qu'on se rend compte que cette équipe continue de grandir, même si elle est de plus en plus jeune, et qu'elle a peut-être encore plus d'arguments que lors de l'Euro 2021?
Alors, je ne pense pas qu'on la présente exactement comme ça. Je crois que l'une des raisons principales pour ça, c'est le fait qu'on a vécu une année 2022 extrêmement difficile avant la Coupe du Monde, qu'on a eu une Nations League absolument catastrophique. Nous l'oublions pas, l'Angleterre a terminé dernière de son groupe, a été reléguée dans la zone B, avait perdu 4-0 à domicile à Wolverhampton contre la Hongrie, avait connu d'énormes difficultés tout au long de la compétition. Et à cause de ça, d'ailleurs, en partie, on abordait ce mondial avec, bien évidemment, toujours de l'espoir, mais une certaine réserve. Et je dirais que peut-être la qualité de certaines parties des prestations anglaises, parce que n'oublions pas que l'Angleterre a parfois été très convaincante et parfois elle a été beaucoup moins. La première mi-temps du match contre le Pays de Galles, le match contre les États-Unis, voire même l'entame de match contre le Sénégal. Si Bellingham n'est pas là pour secouer un peu tout le monde, l'Angleterre est complètement amorphe et apathique. Donc, et le Sénégal, d'ailleurs, se crée des occasions. Donc, De ce fait, on n'est pas encore dans cette logique-là. Si par contre l'Angleterre venait à passer l'obstacle français, oui, à ce moment-là, on dirait, ça y est, le moment est venu. Mais on le savait depuis un bout de temps, hein, de toute façon, que l'horizon 2022, c'est en fait, quand on regarde, c'est la génération des joueurs qui ont été champions d'Europe et champions du monde avec les U17, U19 et U20, qui arrivent maintenant à maturité. Ils sont là. On les attendait en 2022. Donc, ils sont au rendez-vous. Ils sont pas tous nécessairement ceux qu'on attendait. Je ne pense pas qu'en 2017, on attendait Jude Bellingham exactement à ce niveau-là. Mais ils sont en effet à un point de maturation, oui, qui paraît logique, mais en même temps, on ne voit pas ça comme étant. Le parallèle avec France 2018, je n'ai entendu personne le faire
Ok,
encore.
très bien.
Je vais le suggérer, hein,
Ouais.
Cyril, et on verra ce que les gens me répondent. Ils me diront ah, peut-être, ah, mais oui, mais tu as raison, bien sûr.
Ouais.
Ou ils me diront non, 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 il faut comparer ce qui est comparable. Nous, on arrive de beaucoup plus loin.
Alors, il y a un joueur que tu viens de citer, Philippe, qui fait la une à peu près partout dans le monde. On allait dire en Angleterre, mais même dans le monde, parce qu'on est tous assez fascinés par le talent de Jude Bellingham. J'imagine que la Bellingham Mania en Angleterre ne fait que commencer presque.
Oui, et je vais et vous montrer un exemple de ça, puisque c'était le supplément Football du Times. Bon, encore une fois, la culture anglaise, le Times journal d'information générale qui consacre un carnet de combien, je ne sais pas, 16 pages au mondial. Ils se sont trouvés ça dans le, comme si on trouvait ça dans le Figaro ou dans l'eBay, quoi. Et donc voilà quelle était la une. J'espère que
Complete
vous pouvez la
package.
voir.
Ouais, donc
Oui,
le voilà.
la panoplie complète.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que c'est que la panoplie complète? C'est le calme, la combativité, la créativité et l'autorité. Je pense qu'on pourrait même d'ailleurs en rajouter à ça, mais je ne pense pas d'ailleurs que ce soit complètement inexact de faire une telle affirmation. En ce moment, je ne vois pas beaucoup de milieux de terrain de ce type qui soient meilleurs que lui dans le monde, hein, tout
Ouais.
simplement. Je crois que n'importe quelle équipe, il serait dans le n'importe quel 11 combiné. Je pense que Jude Bellingham en ferait partie et qu'il sera dans le 11 type de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il le découvre si tard, je dirais, parce que. Et ça montre quand même combien le football anglais demeure insulaire dans sa culture. Parce que ça fait quand même au moins 2 ans que Jude Bellingham, on sait ce que ça vaut
Bien
avec le
sûr.
Borussia Dortmund.
Ouais.
On l'a vu faire des performances exceptionnelles en Ligue des Champions et en Bundesliga. On l'a également vu de temps à autre en équipe d'Angleterre faire d'excellentes choses. Et on le voit depuis le début du mondial également faire d'excellentes choses. Ce qui s'est passé, c'est que c'est ces moments dans la carrière d'un joueur où tu passes d'une dimension à une autre. Il est passé de la dimension de très très bon joueur, joueur de classe internationale, à joueur de classe mondiale. Et c'est une expression qu'on emploie beaucoup trop fréquemment, mais qui dans son cas est complètement justifiée. Et je crois que l'Angleterre est à la fois ravie et surprise et choquée de découvrir qu'elle a un talent comme celui-là en son sein. Ça, c'est typiquement anglais. C'est comme les Anglais qui te venaient vers moi ou vers leurs amis étrangers et nous demandaient, mais vous croyez vraiment que Kane, il est aussi bon que ce que vous dites? On disait, mais oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'avoir de bons joueurs de temps à autre. Et parce que je crois qu'ils sont tellement excités quand ils ont eu la génération de Gerrard, Lampard,
Ouais.
Owen et compagnie, qu'ils considéraient tous comme être des joueurs de classe mondiale, ce qu'ils n'étaient pas tous, et qui n'ont rien gagné avec, que maintenant ils sont un peu plus prudents quand on en vient à ce type de joueur. Mais avec Bellingham, en effet, c'est la Bellingham Mania. Et la question maintenant, et d'ailleurs, je veux dire, je te tends la perche un petit peu,
Oui,
c'est
merci.
parce
Com
que
comment?
Bellingham, il est dans l'équipe,
Ouais.
mais quelle équipe?
C'est ça. Alors, on a vu lors de ce quart de finale face au Sénégal un Jordan Henderson à la fois buteur mais surtout très actif. Et
Ouais.
presque ce passage en 4-3-3 assez naturel finalement avec Foden qui remplaçait Sterling qui était absent pour raison personnelle. Et presque la charge du jeu donnée à Bellingham. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça face aux Bleus, à savoir ce 4-3-3 à tendance 4-2-3-1 où on laisse Bellingham s'occuper de tout au milieu de terrain? Ou la tentation d'un retour à 3 qui a très bien marché lors de l'Euro pour avoir une assise défensive plus costaud, surtout pour surveiller Kylian Mbappé, pardon, existe chez Southgate.
Alors ça, c'est la question à 100 millions de dollars.
Ok.
C'est parce que il y a eu un briefing de la presse hier par Steve Holland, donc l'adjoint de Gareth Southgate, qui était absolument fascinant. Parce que bien évidemment, c'est une question qui trotte dans la tête de tout le monde.
Ouais.
3, 4 ou 5. Et la question lui a été posée directement. Et il n'y a évidemment pas répondu. Il n'allait pas sortir le lapin
De son
de sa
chapeau.
besace.
Ouais.
Oui, de sa chapeau, sa besace. Non, tout ce qu'il a dit, c'est que il y avait du pour, il y avait du contre, mais il n'a pas Il n'a certainement pas dit non, 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 on a une formule qui a très bien marché, on va la conserver, c'est comme ça. Non. Il a dit non, c'est une possibilité, c'est un système qui offre de nombreux avantages, on l'avait vu à l'euro, ça avait bien moins marché contre, dans la Nations League, mais ce n'était pas à cause de l'organisation tactique, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion en ce moment qui a lieu dans le camp anglais et que dans l'esprit de Gareth Southgate, ça n'est pas encore clair. Et l'autre chose qu'il faut savoir et qu'il a expliqué, c'est que dans l'armée d'analystes qui entourent Gareth Southgate et Steve Holland à St. George's, leur Clairefontaine, hein, tu as des analystes qui se spécialisent uniquement dans l'étude de l'opposition. Et que l'équipe de France, ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus. 2 ans que tu as des gens dont c'est le travail. Comment faire obstacle à l'équipe de France et en particulier, comment faire obstacle à Kylian Mbappé. Donc, à partir, je ne sais pas pourquoi, quand moi j'entends ça, je me dis, OK. Faire obstacle à Kylian Mbappé, ça veut dire, bon, c'est pas simplement on va mettre Kyle Walker parce
Bien
qu'il va
sûr,
vite.
oui.
Hein, je crois que ça va un petit peu plus loin quand même dans la réflexion. Donc ça peut être en effet comment le sevrer de ballon, tout à fait. Mais ça peut être également comment penser à des doublements ou des redoublements sur Kylian Mbappé. Alors ça, c'est possible de deux façons. Parce que d'un côté, tu peux avoir Bukayo Saka à droite, qui est un joueur très très généreux dans les repositionnements, qui va vite aussi. Je crois d'ailleurs contre. Le Sénégal était, ou même peut-être depuis le début du tournoi, est de tous les attaquants celui qui a le plus de récupération du ballon dans le groupe anglais.
D'accord.
Donc tu aurais Saka à droite et puis Kyle Walker derrière. Ça, c'est une façon, à ce moment, tu ménages un petit peu la chèvre et le chou, mais tout en freinant un petit peu Bukayo Saka, parce qu'il faut qu'il conserve tout le temps un œil derrière lui, savoir si Mbappé, qui lui revient jamais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Kyle Walker peut manquer? Et si Saka est devant, ben ça veut dire que Walker, il faut qu'il reste là où il est, en poste d'arrière droit, alors que c'est un joueur qui apporte tellement offensivement Walker. On est d'accord? Qualité de centre, qualité de percussion, tout ce qu'on voudra. Donc, il doit y avoir une tentation de faire revenir Kieran Trippier, qui en plus de ça, sur les coups de pied arrêtés, et à mon avis, le meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. Kieran Trippier et Kyle Walker en arrière droit d'une défense à trois. Voilà, et je pense que c'est une réflexion qui en ce moment est en train de tourner dans la tête de Steve Holland, de Gareth Southgate et de tous les autres analystes.
Et ben voilà, on aura la réponse samedi aux alentours de 19h pour la compo et à 20h pour ce quart de finale très attendu. Merci beaucoup Philippe, on sera ensemble pour
Merci, et toi?
débriefer ce quart de finale évidemment.
Oh oui.
Et nous, on continue notre tour du monde. On continue notre tour du monde et on atterrit en Amérique latine. On retrouve Thomas Goubin, notre spécialiste du football sud-américain. Salut Thomas. Bon bah les deux géants sont au rendez-vous comme prévu.
Salut Cyril, ouais, comme attendu, même si l'Argentine a connu un faux départ qui fait un petit peu peur, mais là en huitième de finale, ils n'ont pas connu de problème, surtout voilà, le Brésil qui a réalisé une vraie démonstration pour la Corée du Sud.
Thomas, avant de parler de jeu, peut-être, j'aimerais bien que tu nous éclaires sur un aspect qui a été beaucoup commenté ces dernières heures, sur les danses des Brésiliens. Ils en avaient préparé en amont de la compétition, ils en ont fait après chaque but. On a notamment vu Tite imiter le pigeon de Richarlison. Certains ont eu tendance à critiquer cet aspect-là. Est-ce que critiquer les danses des Brésiliens, c'est pas un petit peu nier leur identité, leur rapport au football finalement?
Oui, tout à fait, puisque la musique, la danse, ça a toujours fait partie intégrante de la vie de la Seleção. Pelé est un bon musicien, un bon guitariste, Ronaldinho un bon percussionniste. Là, aujourd'hui, on sait que Dani Alves, c'est un spécialiste du pandeiro, une sorte de percussion. Et avant les matchs, dans le vestiaire, ça peut chanter, ça peut danser. Et clairement, les critiques de Roy Keane ont été assez mal prises au Brésil. Aussi avec un peu d'humour, quoi. Ils leur ont répondu avec un peu d'humour, notamment les supporters, en montrant puisque Roy Keane a dit que ces danses étaient irrespectueuses. Les supporters brésiliens ont fait des montages où on voyait le grand respect qu'avait Roy Keane pour ses adversaires, avec notamment des tacles assassins, notamment son fameux tacle sur le père de Erling Haaland.
Est-ce qu'on sait déjà s'ils ont prévu des danses? Alors, on se souvient que Rafinha, avant le début de la compétition, avait expliqué qu'il y en avait 10 de déjà prévus. C'est presque un truc qui travaille à l'entraînement, ou pas à l'entraînement, mais en tout cas, c'est quelque chose de chorégraphié et de prévu en amont. C'est pas forcément que du spontané.
Oui, tout à fait. Ils ont un répertoire de danse, visiblement, ils en ont 10.
Ouais.
C'est notamment, ils s'inspirent notamment de ce qui peut se faire sur TikTok.
Ok.
Ils s'envoient les vidéos. Et le jour du match, ils décident quelle danse en fait ils vont pratiquer s'ils marquent un but. Évidemment, pour qu'on les voie danser, faut qu'ils marquent. Mais là, contre la Corée du Sud, ils ont été plutôt prolifiques.
C'est impossible d'imaginer une équipe brésilienne qui ne danse pas après ses buts. C'est vrai que tu as parlé de Ronaldinho, on se souvient de son petit pas de danse en termes de célébration. Il y avait eu Bebeto, de manière plus ancienne, qui avait fêté la naissance d'un de ses enfants. C'est quelque chose, encore une fois, qui serait presque mal vécu qu'il n'y ait pas de danse au Brésil. J'extrapole peut-être un peu, mais.
En tout cas, Tite, le sélectionneur, s'est rendu compte à quel point ce genre de rituel pouvait être important pour l'équipe.
Ok.
Et c'est notamment pour ça qu'il s'est intégré à une danse, même si ça a pu paraître, là pour le coup, vraiment irrespectueux à plusieurs de voir un sélectionneur danser. Et pour lui, en fait, c'est d'embrasser aussi les codes de la nouvelle génération et voilà, de participer à leur démonstration de joie.
Alors, on va parler un petit peu de terrain désormais, Thomas, puisque bah, on a vu un Brésil tout feu, tout flamme face à cette Corée. Une première mi-temps comme dans un rêve, quatre buts marqués, un festival offensif. Et on a retrouvé un petit peu l'idée qu'on peut se faire du Brésil avec un football, bah, voilà, le fameux Joga Bonito, auquel pourtant, Tite, tu nous l'avais expliqué, n'est pas forcément le plus grand représentant. Est-ce qu'il faut s'attendre face à la Croatie à une démonstration similaire ou est-ce qu'on va retrouver plutôt le Brésil des deux premiers matchs, très costaud défensivement et qui laissera juste parler ses artistes devant?
Je pense que ce qui va changer, ça va être tout simplement la qualité de l'adversaire
Ouais.
et aussi son profil. On peut s'attendre que les Croates essayent de réaliser une partie d'échec contre le Brésil, alors que la Corée du Sud a voulu jouer et l'a payé très cher. Donc on peut s'attendre à un Brésil un peu plus prudent, un peu celui qu'on avait vu lors du premier tour. Voilà, un Brésil qui prend son temps, qui finalement ne va jamais vraiment tergiverser, ne va jamais s'impatienter. Et puis attend le bon moment. Et une fois qu'ils ont mis le premier but, après les espaces se créent. Et là, ils peuvent dérouler leur jeu. Mais je pense que c'est difficile de prévoir un tel festival face à la Croatie.
Est-ce qu'il faut s'attendre à la même équipe? Alors, derrière, a priori, il y aura assez peu de changements, mais est-ce que c'est tenable ce milieu de terrain avec un trio au milieu composé de Casemiro, Paqueta et Neymar? Peut-être Paqueta pourrait être remplacé par Fred, notamment pour avoir encore un peu plus d'assists. C'est quelque chose qui est assez discuté au Brésil, ça?
Ouais, c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que ce milieu, il n'avait pas vraiment fonctionné lors du premier match. Là, ça a beaucoup mieux fonctionné contre la Corée du Sud. Mais ça, est-ce que contre la Croatie, il ne faudrait pas privilégier un deuxième milieu purement défensif aux côtés de Casemiro? C'est possible. Et Tite a souvent alterné cette option-là pendant la campagne éliminatoire.
Ok.
De temps en temps, on avait ce milieu avec 13 joueurs, avec Paqueta, Neymar. Mais aussi, très souvent, on pouvait avoir Fred avec Casemiro ou Fabinho avec Casemiro.
Il y a un autre joueur qu'on avait envie de mettre en avant, Thomas, et tu avais envie de mettre en avant, c'est Alisson, parce que, bah mine de rien, face à la Corée, il a eu du travail, il a sorti des parades exceptionnelles. Alors, il encaisse un but, certes, mais on a le sentiment que c'est aussi une arme fatale pour Tite et pour le Brésil pour aller au bout, à savoir que cet Alisson-là, ça fait plusieurs saisons que. Alors, il y a Thibaut Courtois, mais c'est un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur, notamment dans les face-à-face avec les attaquants.
Ouais, tout à fait. On a vu ça contre la Corée du Sud. Et comme tu dis, c'est l'autre arme fatale du Brésil. C'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de ses attaquants. Mais aussi, le Brésil avec Alisson a vraiment une valeur sûre. Et on l'a vu contre la Corée. Mais paradoxalement, c'est aussi un joueur qui a été mis en concurrence par Tite pendant toute la campagne éliminatoire.
Ok.
Lors de la dernière Copa América, Ederson a même fini en cours de compétition de lui ravir la place de titulaire.
Ok.
Mais dans la partie finale des éliminatoires, il s'est vraiment imposé. Et là, c'est clairement le gardien numéro un. Et c'est clairement un joueur qui peut aider le Brésil à conquérir sa sixième étoile.
Qu'est-ce que lui reprochait Tite à l'époque? Peut-être un moins bon jeu au pied que Ederson, j'imagine, puisque Ederson est la référence dans le domaine. Mais de l'extérieur, on a l'impression malgré tout que Alisson est un gardien plus complet que Ederson.
Oui, tout à fait. Je pense pas qu'il avait vraiment des grands griefs contre Alisson. Mais sa dernière saison avec Liverpool était un peu moins bonne. L'an dernier, il a aussi été marqué par le décès assez brutal de son père qui s'est noyé. Donc, tous ces éléments-là ont dû jouer. Il a aussi sans doute voulu donner sa chance à Ederson, comme tu le dis, qui a un très bon jeu au pied et qui permet finalement de jouer différemment. Mais finalement, c'est la sûreté d'Alisson qui a fini par gagner le combat.
Il y a un autre joueur dont je voulais qu'on parle, Thomas, parce qu'on a beaucoup parlé de Neymar, de son retour, plutôt convaincant d'ailleurs face à la Corée, et on sent qu'il en a encore sous la semaine. Il y a un joueur offensif du côté du Brésil qui réalise une Coupe du Monde magnifique, c'est Vinicius. On sait que pendant un temps, c'était Neymar qui occupait ce flanc gauche. Est-ce que Vinicius était une évidence pour Tite avant le début de la compétition? Et surtout, depuis quand? Est-ce que c'est depuis qu'il a pris le pouvoir au Real Madrid avec Karim Benzema? Ou est-ce que c'est un joueur qui, depuis toujours, a eu une place particulière dans ce groupe brésilien?
Non, clairement, ça, vraiment, sa montée en puissance en sélection va de pair avec le fait qu'il soit vraiment installé au Real Madrid et qu'il soit devenu un joueur majeur.
Ouais.
Et là, on a vu toute la différence sur le but qu'il marque contre la Corée du Sud entre le Vinicius d'il y a quelques années et celui d'aujourd'hui. On a vu une tranquillité pour réaliser son geste absolument inouée et une précision également. Et on voit aussi qu'il n'en fait pas trop. C'est un joueur qui a quand même épuré son jeu. Ce que doit aussi beaucoup apprécier Tite.
Autour de lui, il y a beaucoup d'attentes. Alors, on le sait, le Brésil, il y a des phénomènes quasi tous les 2 ans. Là, on parle beaucoup de Hendrix actuellement, mais Vinicius, est-ce que c'est celui qui est censé incarner le Brésil dans les 10 ans qui viennent, comme Neymar l'a fait avant, où il n'y a pas du tout le même genre d'attente autour de lui?
C'est pas la même attente parce que
Ouais.
Neymar, on a entendu parler quand même. Alors qu'il était très jeune, c'est
Ouais.
devenu un phénomène même médiatique, publicitaire. Les enfants se coiffaient comme lui.
Ouais.
Vinicius, on n'en est pas encore là. Je pense que ses débuts aussi un peu mitigés avec le Real Madrid, on peut jouer là-dedans. Mais par contre, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'impose comme un des leaders techniques de la sélection.
J'imagine que la presse brésilienne est plutôt enthousiaste à l'idée de jouer ce quart de finale face à la Croatie, sans mettre la charrue avant les bœufs. J'imagine qu'on se projette beaucoup sur une potentielle demi-finale face à l'ennemi intime argentin.
Exactement.
Ouais.
Pour le Brésil, déjà, arriver en quart de finale, ce n'est pas exceptionnel. Donc, on
Ouais.
prend ça avec beaucoup de tranquillité. Il y a Paulo César dans un éditorial. Donc, Paulo César, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, champion du monde 70. Lui qui voulait mettre vraiment en évidence le fait que le Brésil, jusqu'à là, n'a rencontré aucune grosse écurie. Lui ne considère même pas la Croatie comme une grosse écurie, malgré son statut de vice-champion. Et se projette directement sur la possible confrontation contre l'Argentine. Mais on ne parle pas encore trop de ça au Brésil. On préfère, comme tu dis, pas mettre la charrue avant les bœufs.
On en reparlera éventuellement avant cette demi-finale, si c'est bien celle-ci qui se profile. Mais j'imagine que la Copa América 2021 a marqué les esprits, et notamment au Brésil, qui accueillait la compétition, battu sur son sol par Messi, qui remportait son premier grand trophée avec l'Argentine. C'est quelque chose qui a été digéré au Brésil, ou il y a une forme de revanche un petit peu dans ce duel-là?
Non, je pense que la revanche, c'est plutôt l'attente qui est autour de ce match, c'est lié à la grande rivalité entre les deux équipes. Et une Copa América, ça ne se compare pas avec le poids d'une Coupe du Monde dans un palmarès. Et en plus, il faut se rappeler aussi que le Brésil, 2 ans avant, avait battu l'Argentine en demi-finale de Copa América et avait fini par gagner la compétition. Donc cette défaite, même s'il était à domicile, a pas été traumatisante aussi du fait que cette Copa América avait été disputée dans un contexte spécial,
Oui, tout
puisqu'on
à
était
fait.
en pleine crise Covid, avec beaucoup de stades à huis clos ou avec plutôt des jauges très 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 limitées.
Alors, ça nous offre une transition rêvée vers l'autre équipe qui est en quart de finale. C'est l'Argentine, évidemment. L'Argentine ou Lionel Messi, on ne sait plus trop finalement. Il y a un tel engouement autour de Messi qui a été exceptionnel pendant ce huitième de finale. Est-ce que on t'a déjà posé la question il y a la première fois, si je ne m'abuse, mais est-ce que c'est pas démesuré toute l'attente qu'il y a autour de Lionel Messi et cette équipe d'Argentine? Et on a l'impression que cette équipe d'Argentine, elle n'est composée que de joueurs censés accompagner Messi.
Ah bah, ce qui est hors norme, je crois, c'est le talent de Messi. Donc après, l'attente qu'il y a derrière, étant donné que c'est sans doute sa dernière possibilité de gagner la Coupe du Monde, elle me paraît assez logique. Ce qui diffère peut-être des dernières Coupes du Monde, c'est que lui a l'air de totalement assumer ça.
Ouais.
Souvent, quand il rentre dans le couloir pour aller sur la pelouse, on voit il mène en fait l'équipe. On voit beaucoup de photos où il est en premier plan et on a l'impression que derrière, c'est un peu sa garde prétorienne avec Rodrigo De Paul, souvent juste derrière lui, qu'on décrit un peu comme son garde du corps là-bas. Et c'est clairement une sélection qui met Messi sur un piédestal. Il faut aussi souligner que dans cette sélection, en fait, il y a assez peu de joueurs qui sont de sa génération.
Ouais.
La plupart sont plus jeunes, donc l'ont admiré et continuent de l'admirer. Un des seuls qui serait de sa génération aujourd'hui, c'est Di Maria.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire finalement par rapport à 2014 ou même à 2018 où il y avait quand même des joueurs référencés au plus haut niveau européen, des Agüero, des Higuain, des Mascherano, des joueurs comme ça. Ça aussi, ça participe au fait qu'on a des déclats comme celle de Dimu Martinez qui dit que grosso modo, Messi fait 99% du travail et qu'ils sont là pour faire le 1% restant. Ça s'explique comme ça?
Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu exagéré. Ouais. Il y a clairement, c'est aussi un peu de la com, je pense. Tout le monde essaye aussi de peut-être pas de le brosser dans le sens du poil, mais en tout cas, de faire d'être assez déférent envers lui. Surtout pas de commettre de crimes de lèse-majesté en quelque sorte.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on entend souvent ce genre de déclaration de la part de la plupart de ces jeunes coéquipiers.
Alors, ces jeunes coéquipiers, il y en a un qui crève l'écran. Alors, il y en a deux plus précisément, Enzo Fernandez au milieu de terrain et surtout Julian Alvarez devant. Et est-ce que tu peux nous parler d'eux, qui sont deux joueurs issus de River Plate, qui sont deux joueurs élevés, on a envie de dire, par Gallardo presque, et qui ont complètement transfiguré le visage de cette équipe argentine?
Ouais, et c'est vrai, ce qui est impressionnant, c'est à quel point ils sont vite adaptés, finalement, à leur nouveau statut de titulaire.
Ouais.
Aujourd'hui, même si Scaloni brouille toujours souvent les pistes sur son 11, bon, on peut penser que ces deux joueurs-là vont encore être alignés contre les Pays-Bas.
Ouais.
Comme tu le dis, ils ont été en quelque sorte éduqués par Gallardo, qui est un entraîneur extrêmement exigeant, qui demande aussi à ses joueurs de savoir faire beaucoup de choses, donc ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi ils s'adaptent aussi facilement. Après, il y a une différence entre les deux joueurs, c'est que Alvarez, lui, n'a jamais quitté River Plate. Il s'est assez rapidement imposé une fois que Gallardo l'a lancé. Tandis que Enzo Fernandez, il a dû faire un crochet par Defensa y Justicia, okay. Un tout petit club. Et à ce moment-là, c'était Hernán Crespo, son entraîneur. Et d'ailleurs, quand Crespo a évoqué son souvenir, en fait, de ces mois où il a dirigé Enzo Fernandez, il avait quasiment les larmes aux yeux. Après le match après le huitième de finale.
Okay.
Et ce sont deux joueurs qui montrent qu'ils ont des capacités d'adaptation bluffantes aussi en Europe, puisque Enzo Fernandez s'est déjà posé à Benfica comme un titulaire indiscutable, comme un moteur même de l'équipe. Et Julian Alvarez est dans un cas de figure un peu différent, parce qu'il est dans l'ombre de Erling Haaland à Manchester City, mais on voit que ça n'a absolument pas entamé sa confiance.
Et j'imagine que c'est une fierté particulière. On sait que c'est l'Argentine, de par l'état économique de leur club, doit souvent vendre très rapidement ses pépites en Europe. Et donc, ces joueurs-là grandissent un petit peu hors des radars argentins. Là, de les avoir vus grandir pendant longtemps à River Plate et qui portent aujourd'hui la sélection, c'est un motif de fierté, notamment pour les fans de River.
Clairement. Après, River Plate, c'est sans doute le plus grand club formateur
okay. Ouais.
Argentin. Le nombre de joueurs qui sont sortis, Gallardo est sorti de là.
Ouais.
On pourrait citer Almeida, pour des plus vieux, on pourrait citer Ramon Diaz.
Même Ocampos, récemment, si je ne dis pas de bêtises.
Ocampos, ouais. Hernán Crespo.
Ouais.
C'est vraiment, c'est le grand club formateur. Évidemment, c'est un motif de fierté. Et comme tu le dis, c'est vrai que généralement, dernièrement, les pépites argentines, elles partent à 17-18 ans.
Ouais.
Et là, ils ont un peu grandi. Ils ont grandi 2-3 ans en première division. Donc, ça permet aussi aux fans de les sentir comme leurs. Sentir que vraiment, ce sont des joueurs qui les représentent.
Ouais. Peut-être une question sur un autre homme qui risque de ne pas démarrer, mais qui fait beaucoup parler ici. On en attendait énormément. C'est Lautaro Martinez, en crise de confiance complète devant le but. Qu'est-ce qui se dit en Argentine autour de son cas? Il y a une chance de le revoir dans le 11 titulaire, où on va plutôt l'utiliser en joker désormais, maintenant que Julian Alvarez a donné pleine satisfaction.
Ce qui semble la logique, ce sera de continuer à voir Julian Alvarez. Après, comme je te le disais tout à l'heure, Scaloni, il brouille toujours les pistes. Il a un peu trompé tout le monde sur tous ses 11 depuis le début, donc c'est dur de faire des prédictions. Par contre, ce qui est sorti ce matin en Argentine, c'est que visiblement, il est extrêmement diminué par une cheville, en fait.
D'accord.
Et donc, ça pourrait expliquer vraiment sa Coupe du Monde plutôt ratée jusque-là. Et en fait, il est arrivé d'Italie avec cette blessure.
D'accord, bon, tout s'explique un petit peu et on comprend mieux pourquoi il a du mal devant le but. Thomas, il y a un dernier sujet qu'on voulait évoquer avec toi concernant l'Argentine. Quand on regarde les matchs à la télé, on a l'impression de regarder un match à la Bombonera ou au Monumental presque. Il y a une ambiance complètement délirante autour de cet Albicéleste. Tu parlais de Crespo, on a vu aussi d'anciennes gloires de l'Albicéleste présentes dans les stades. Je pense à Baptiste Tuta, à Sorin, etc. Fallait s'y attendre à cette ambiance-là où même en Argentine, on est surpris qu'il y ait autant d'Inchas qui aient fait le déplacement au Qatar.
Bon, traditionnellement, ils se déplacent quand même en masse. Ouais. Mais il y avait quand même un doute du fait que ça joue au Qatar, que ça coûte extrêmement cher, qu'on parlait beaucoup de certaines restrictions, notamment sur la consommation d'alcool. Après, les fans argentins, eux, ils sont prêts à vendre leur voiture, quasiment à réaliser une hypothèque, certains en tout cas, pour vivre un mondial.
Okay.
Ça, c'est quelque chose de quasiment culturel. Ouais, ils sont prêts à tout pour vivre un mondial. Et ce que mettaient en avant aussi les médias argentins, c'est qu'il y a beaucoup de supporters, en quelque sorte non argentins, mais fans de Messi,
ouais,
qui au Qatar enfilent le maillot argentin et agrandir la hinchada de l'Argentine.
Ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a l'impression, alors tu le dis, il y a peut-être des gens qui sont moins habitués au football argentin qui viennent soutenir l'équipe de Lionel Messi. Il n'empêche qu'il y a des chants en continu. Des chants, ça ne s'apprend pas sur le tas. C'est aussi des choses qui se travaillent, qui se répètent. On a l'impression de quelque chose de très organisé. Là encore, c'est assez fréquent concernant l'Argentine on est un peu surpris.
Non, on n'est pas surpris. D'accord. Après, c'est vrai que sur les chants, les fans sont assez créatifs. Ils essayent de trouver de nouveaux hymnes, en quelque sorte. Et très rapidement, dès qu'il y en a un qui commence un tout petit peu à être populaire, on a des articles sur ces chants, sur leur genèse.
Okay.
Et finalement, tout le pays, très rapidement, finit par se les approprier, tous les fans.
Il y a un autre mot qui est un petit peu inhérent quand on parle de fans en Argentine, c'est les Barras Bravas. Est-ce que déjà, peut-être, tu peux nous expliquer que sont les Barras Bravas et on va vous expliquer pourquoi. Il y a des articles en Argentine qui expliquent que certains fans interdits de stade en Argentine ont été autorisés à rejoindre le Qatar pour permettre cette espèce d'union sacrée autour de l'Albicéleste. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les Barras Bravas, tout simplement?
Les Barras Bravas, bon, ça serait l'équivalent de nos ultras.
Okay.
Mais la différence, c'est que ce sont de véritables organisations mafieuses qui gagnent de l'argent, notamment pour une partie grâce à la revente de billets,
okay,
la gestion des parkings les jours de match, la gestion des stands de nourriture les jours de match, mais également, c'est su, mais c'est un peu plus secret, le racket des joueurs.
Okay.
Certains joueurs dans certains clubs doivent donner un pourcentage aux Barras Bravas, parfois des dirigeants. Et là, ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'ils soient arrivés en grand nombre, mais jusque-là, il n'y a eu aucune,
confirmation.
Personne n'a réussi à le vérifier.
Ouais.
La question, c'est de se demander, mais comment ils sont arrivés là, comment ils ont obtenu des billets finalement.
Ouais.
Et la piste prioritaire, c'est que les dirigeants reçoivent tous des quotas de billets pour le mondial et les auraient redonnés à certains Barras Bravas.
Alors, on sait que. On a un peu l'impression que c'est une entité inéluctable en Argentine. On ne peut pas arriver président d'un club argentin sans avoir un certain appui de la part des Barras Bravas. On a l'impression que c'est un petit peu pareil au niveau institutionnel, puisque Chiqui Tapia, qui est le président de la fédération, est aussi un relationnel historique avec les Barras Bravas. Tu nous confirmes que sans eux, rien ne peut se faire quasiment?
Oui, tout à fait. Et le problème, en fait, c'est qu'en Argentine, c'est que les dirigeants ont été pris à leur propre piège. Ils ont d'abord voulu utiliser les Barras Bravas.
D'accord.
Très souvent, les présidents de clubs peuvent être aussi des figures politiques. Mmh. Ils ont pu les utiliser pour faire leur service d'ordre lors de manifestations, des fois pour réaliser des bases d'œuvres, pour réaliser le coup de poing. Et finalement, les Barras Bravas, petit à petit, ont pris du pouvoir en fait, à l'intérieur des clubs. Aujourd'hui, bah, le ver est dans le fruit et ils sont complètement incrustés dans la vie de tous les clubs argentins, même les plus grands. On se rappelle notamment que, voilà, de l'annulation de la finale de Copa Libertadores entre River et Boca.
Tout à fait.
Qui avait sans doute été lié à une perquisition chez le grand groupe ultra, enfin, Barra Brava, de River Plate, donc les Borrachos del Tablón. Et pour donner une idée de l'argent que peut générer le business des Barra Brava, par exemple, ce jour-là, quand ils avaient fait leur perquisition, bon, ils avaient trouvé 160 000 euros en liquide.
Oui,
et
d'accord.
Très souvent, les chefs des Barras Bravas vivent dans des villas ou ont un niveau de vie de millionnaire.
Et comment, parce que là, on parle de phénomènes liés à des clubs, est-ce que c'est... On a vu au Qatar voilà, des membres des fan clubs de Boca, de River, de Independiente, etc. Quand c'est l'Argentine et l'Albicéleste, il y a une espèce d'union sacrée autour de ça et on arrive à cohabiter et à encourager dans le même sens alors qu'au quotidien, on est plutôt des rivaux et un peu plus que ça même, des ennemis avec qui il y a parfois de la violence physique.
Oui, tout à fait. C'est ce qui est assez étonnant. Il y a une sorte d'union sacrée qui se crée. Okay. Les Barras Bravas, comme ça, se déplacent depuis 1982.
Okay.
Au début, ils étaient en tout petit nombre. Aujourd'hui, ils se déplacent par centaines. Mais il n'empêche que très couramment, lors des mondiaux, il y a aussi des échauffourées entre Barras Bravas rivales. Donc on peut les voir ensemble au stade. Et puis, voilà, les vieux contentieux peuvent remonter à la surface et il peut y avoir de violents incidents, même si jusque-là, visiblement, il n'y a pas eu d'incident d'ampleur lié à leur présence au Qatar.
Ok, merci beaucoup pour ce point très complet, Thomas. On se retrouvera évidemment pour parler des demi-finales, peut-être pour évoquer cette demi-finale Argentine-Brésil. On vous rappelle les quarts de finale, Brésil-Croatie samedi à 16h et Argentine-Pays-Bas samedi à 20h. Merci beaucoup Thomas et nous on continue notre tour du monde.
Merci Cyril.
On enchaîne ce tour du monde avec une équipe qui a impressionné lors de ses huitièmes de finale. C'est le Portugal, j'allais dire de Cristiano Ronaldo, mais finalement de Gonçalo Ramos. On accueille Julien Pereira, notre spécialiste du football portugais. Julien, choix courageux, risqué, osé, tous les mots que vous voulez, de Fernando Santos de se priver de Cristiano Ronaldo avec la démonstration qui s'en est suivie. Finalement, toi qui écris beaucoup sur le Portugal, c'était attendu que cette équipe du Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo.
C'était espéré, okay. En tout cas. On l'imaginait très bien, beaucoup de monde l'imaginait. Il fallait un match pour le matérialiser finalement. Tu disais un choix osé, c'était même un choix quasiment de vie ou de mort pour, ouais, Santos. Parce que si vous mettez Ronaldo sur le banc et que derrière vous ne vous qualifiez pas, vous pouvez aller voir la fédération et donner votre démission. Donc finalement, le plus grand vainqueur d'hier soir, enfin du match face à la Suisse, c'est pas Gonçalo Ramos, parce qu'on n'est pas certain qu'il soit titulaire face au Maroc, c'est même pas le Portugal, c'est Fernando Santos, parce qu'il a retrouvé une jauge de crédibilité à plein, tout simplement. Et pour le jeu, oui, effectivement, on l'imaginait très bien, parce qu'on voyait que sur l'aspect technique et aussi sur l'aspect psychologique vis-à-vis de ses coéquipiers, Ronaldo influençait trop le, ouais, jeu du Portugal. Et là, ce qu'on a vu hier, finalement, ça éclaircit tout ce sujet-là et ça demande encore à être revu face au Maroc.
Alors, Santos a été avare en mots au moment de se justifier sur ce choix. Il a simplement expliqué que c'était un choix stratégique. Toi, tu nous dis que Gonçalo Ramos, c'est pas forcément une évidence face au Maroc. Il sort d'un triplé. Il permet de bonifier João Félix, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Comment ne pourrait-il pas être titulaire face au Maroc?
Parce que j'ai la conviction, alors là c'est mon opinion, et de toute façon il faudra voir les prochains jours, prochaines heures pour avoir plus de certitude là-dessus, mais j'ai quand même la conviction que Fernando Santos veut garder Ronaldo mobilisé jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, parce que le Portugal aura forcément besoin de lui à un moment donné si ça va loin. Et j'ai quand même la sensation qu'il va tenter de le relancer face au Maroc en lui disant, écoute, tu as vu ce que l'équipe était capable de faire sans toi, à toi maintenant de te mettre au niveau, parce que finalement, ça n'a jamais été le cas pour Ronaldo. C'est toujours l'équipe qui a dû se mettre à son niveau et pas lui qui a dû se mettre au niveau de l'équipe. Et là, finalement, il n'a pas le choix, il n'a plus le choix, parce qu'il y a une preuve maintenant, il y a ce match face à la Suisse. Et je pense, j'ai quand même la sensation que Santos va tenter de lui redonner une chance face au Maroc. Parce que le Portugal aura forcément besoin de lui par la suite si ça va plus loin.
Alors, juste, c'est quoi la tonalité ces dernières heures, tout simplement, dans les médias portugais? C'est le Maroc, la surprise de ces quarts de finale, une équipe qui défend très bien, mais qui pourrait manquer de joueurs clés lors de ce quart de finale. Est-ce que le Portugal se voit pas déjà en demi-finale, finalement?
Absolument pas.
Ok.
Pour la simple et bonne raison que l'Espagne était une équipe qui faisait très peur et qui a toujours fait très peur au Portugal. Et qui se disent, si le Maroc a été capable de sortir l'Espagne, bah c'est que c'est un vrai danger. C'est Otavio qui l'a dit notamment hier, juste après, mardi soir, pardon, juste après la rencontre. Donc, il n'y a pas vraiment de certitude. Le Portugal est méfiant. Le Portugal a encore envie de savoir ce que cette équipe est capable de faire, parce qu'il faut quand même prendre un petit peu de recul vis-à-vis de cette victoire face à la Suisse. La Suisse n'était absolument
Oui,
pas
c'est vrai.
au niveau auquel elle aurait dû être. Donc, il y a encore un petit peu de méfiance. Maintenant, le Portugal est sûr de ses forces. Effectivement, tu l'as dit, le Maroc sera a priori diminué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Portugal ne se voit pas encore en demi-finale.
Dernier petit mot peut-être, Julien, Gonçalo Ramos, un triplé pour son premier match dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. C'est l'avenir à ce poste-là au Portugal où il y a trop de pépites chaque année qui sortent pour se dire que ce sera lui.
Très bien résumé, tu as tout résumé dans ta question. On en a eu beaucoup des joueurs qu'on a vus aller très haut en sélection. Le dernier en date, c'est peut-être André Silva, qui a un petit peu plus de mal, même s'il fait des bonnes saisons en Allemagne. Le plus surprenant avec Gonçalo Ramos, c'est que ce n'est pas une véritable pointe à la base. Ce n'est pas un vrai neuf. Il jouait en tant que second attaquant. Il s'est révélé comme ça au Benfica. C'est Roger Schmidt qui, cette saison, l'a complètement conforté dans un 4-3-3 où il est seul en pointe. Et finalement, on se rend compte qu'il a un vrai sens du but, que c'est pas le joueur le plus physique. Physiquement, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais il a un vrai sens du but. Il a des vraies qualités de déplacement. On l'a aussi vu face à la Suisse. Et donc, finalement, on se dit que c'est peut-être ce joueur-là dont le Portugal a besoin, un joueur mobile qui sent bien le jeu, qui est capable d'évoluer avec ses coéquipiers et qui surtout, c'est une notion qu'on a peut-être moins vue, mais qui est quand même très importante. Il fait le pressing, ça c'est aussi la patte Roger Schmidt. Il est très utile dans le pressing, dans le contre-pressing, notamment pour faire monter tout le bloc. Et ça c'est très très important dans le football de section, dans le football moderne aujourd'hui.
Eh ben merci beaucoup Julien pour ce point complet sur le Portugal. Nous, on va parler de l'équipe qui était censée retrouver le Portugal en quart de finale, mais qui s'est pris les pieds dans le tapis, c'est l'Espagne. Et allez, on termine ce tour du monde par la grosse surprise de ces huitièmes de finale, l'élimination de l'Espagne. On accueille Anna Caro, notre spécialiste du football espagnol. Anna, j'imagine que l'ambiance est un petit peu maussade ce mercredi en Espagne, avec une Espagne qui comprend un peu mal ce qui s'est passé face au Maroc.
Oui, c'est vraiment un gros coup derrière la tête parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait du Costa Rica, on parlait d'une victoire 7-0 et là c'est retour à la maison dès les huitièmes, une défaite très amère finalement contre le Maroc. Si on prend du côté de la presse espagnole, il y a comme toujours la presse catalane d'un côté, la presse madrilène de l'autre, la presse catalane qui va être dans l'émotion finalement, dans cette élimination qui fait mal derrière la tête finalement, avec tous ces joueurs du Barça qui sont dans le groupe. Et puis si on regarde du côté madrilène, finalement, il y aurait presque de la joie en fait de voir cette Roja éliminée si tôt. Parce qu'on déteste Luis Enrique tout simplement. On déteste ce qu'il a mis en place depuis des années et que. Il y a beaucoup d'éditorialistes, de journalistes qui attendaient finalement que ça. Hein. Si on regarde par exemple El Chiringuito, pour eux c'était heure de gloire hier soir. Donc bon voilà, c'est un peu compliqué à cerner une telle élimination.
Moi, je voudrais t'interroger, Anna, sur les réactions des joueurs espagnols et du sélectionneur Luis Enrique. Je les ai un petit peu trouvés de manière personnelle, un petit peu déconnectés de la réalité. On a beaucoup entendu Pedri vanter le mérite de l'Espagne en disant qu'ils avaient simplement manqué de chance dans le dernier geste. Marcos Llorente, c'était un petit peu pareil. Luis Enrique lui a dit que ses garçons avaient appliqué l'idée qui se faisait du football. Pourtant, face au Maroc, moi j'ai trouvé que c'était le Maroc qui était le plus dangereux, paradoxalement, et que bah, cette possession stérile espagnole qu'on avait déjà vue par le passé, mais là on était presque sur une caricature face au Maroc. Est-ce que le football espagnol n'a pas un peu du mal à se remettre en cause peut-être?
Alors, il a du mal à se remettre en cause, mais la Roja est un peu l'aboutissement de tout ce manque de remise en question.
Ouais.
Parce que si la Roja joue aujourd'hui comme ça, et on sait pourquoi Luis Enrique est critiqué, etc., mais si la Roja joue comme ça, c'est parce qu'elle a des joueurs pour jouer comme ça.
Okay.
C'est parce qu'elle a des joueurs, parce qu'elle a des Busquets, Pedri, Gavi, et qui ne sont pas des joueurs de transition. Gavi peut-être un peu plus, mais du coup, c'est le seul dans le trio. Et donc, quasiment obligatoirement, il y a ce football de possession. Alors le problème, c'est que là, on a vu un football de possession ultra stérile. Mais le problème aussi, c'est que devant, ils ont Daniel Olmo, Ferran Torres, ou des Ansu Fati qui sortent du banc. Et honnêtement, c'est pas un niveau incroyable. C'est pas la France qui peut faire rentrer des Giroud, etc. Bon, Giroud, il est titulaire là lors de la Coupe du Monde, mais ils ont des joueurs d'impact, la France, ouais. Là où il n'y a pas du tout ce réservoir-là en Espagne. Donc en fait, il faut une remise en cause, pas seulement de Luis Enrique. Là aujourd'hui.
Ouais, ça dépasse son cas.
Là aujourd'hui, le football espagnol, globalement, tape sur Luis Enrique. Mais si Luis Enrique a joué comme ça, c'est aussi parce qu'il n'est pas bête. Lui, il dit peut-être que c'est l'idée qui se fait du football, mais c'est aussi l'idée qui se dit c'est comme ça qu'on va gagner.
Ouais.
Il sait que si l'Espagne se fait prendre en contre, ils vont avoir énormément de mal à revenir parce qu'ils ont des joueurs qui ne sont pas forcément ultra rapides. Parce qu'ils peuvent eux-mêmes ne pas, ils peuvent pas eux-mêmes jouer le contre.
Ouais.
Donc en fait, ils sont un peu bloqués par ces joueurs-là, par le réservoir de joueurs qu'il y a en Espagne et qui contraint un peu à jouer ce football de possession parce que aussi ça permet normalement de générer davantage d'occasions et d'avoir, même si on a des attaquants devant qui sont un peu moins bons que les autres nations, bah en ayant le ballon, à force, normalement, ça doit rentrer. Là, fait est que ce n'était pas le cas et qu'on a eu des attaquants hier qui ont été quand même assez mauvais, il faut le dire.
Mais comment on explique que ce cadre idéologique espagnol ait du mal à être peut-être assoupli? On a vu les évolutions en football de club où la transition est devenue un petit peu la norme. Et on a vu à quel point le FC Barcelone avait eu du mal justement à se plier à cette norme-là. Le Real l'a fait, mais par l'intermédiaire de joueurs étrangers, paradoxalement. Pourquoi, en termes de formation, on n'a pas eu cette présence d'esprit-là de se dire bah, peut-être que former des très bons dribbleurs, ça pourrait nous servir, former des attaquants très véloces. Et quand on voit l'entrée de Williams lors de ce huitième de finale-là, il y a un vrai apport. Pourquoi le football espagnol a du mal à produire des profils différents?
Mais parce que c'est très compliqué de remettre en cause des philosophies comme celles qui peuvent être du Real ou du Barça au sein d'une formation. Il y a une quantité énorme d'éducateurs sur place qui ont été formés pendant des années à une telle technique, qui forment derrière. Et fait est que cette façon de jouer fonctionne chez les jeunes. Donc en fait, c'est difficile de se remettre en question derrière parce que aujourd'hui, on attend aussi des résultats chez les jeunes. C'est ça aussi le problème. C'est que on attend aussi que les U19 ils remportent la Youth League, etc. Et la dernière fois que le Barça a remporté la Youth League, bah, c'était avec ce fameux tiki-taka, avec la possession, etc. Donc en fait, il faut que la fédération espagnole prenne ça en charge et demande à créer des nouveaux modèles de jeu, etc. Pour le coup, l'Espagne, elle a peut-être ce défaut en formation où les joueurs sont un peu formés dans le même moule, etc. Ouais. Mais elle a beaucoup de bons entraîneurs, de bons jeunes entraîneurs qui peuvent amener quelque chose de différent. Par exemple, si on prend le cas de Diego Martinez qui est à l'Espagnol, bon, ça marche pas très bien à l'Espagnol, mais c'est un très très bon entraîneur. Il a appris à l'étranger, donc pas seulement en Espagne, et donc lui, il connaît davantage ce football de projection, etc. Et d'ailleurs, quand son équipe à Granada tournait, bah, c'était globalement avec des joueurs qui amenaient de la projection, mais c'était des joueurs qui n'étaient pas espagnols. Donc ça ramène toujours au même problème, finalement.
Tu suis la Liga toutes les semaines, Anna. Tu nous en parles très bien dans Tour d'Europe. On a aussi l'impression que c'est un petit reflet de ce qui se passe dans le championnat espagnol et que finalement, on est arrivé au bout d'un modèle. Alors, tu nous as dit la nécessité de réussir à former d'autres choses. Il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience malgré tout qui s'opère en Espagne? On va rappeler ici les résultats de la sélection depuis 2014. Il y a cette élimination en poule en 2014 évidemment. Huitième de finale à l'Euro 2016, huitième de finale au Mondial 2018, cette demi-finale 2021 où on se dit à l'Euro que finalement Luis Enrique a réussi à donner un nouveau souffle à cette équipe, et ce nouveau huitième de finale-là, est-ce qu'à un moment, il ne doit pas y avoir un signal d'alarme qui est tiré, cette prise de conscience-là, est-ce qu'elle va arriver, ou est-ce qu'on risque encore de vivre dans le même carcan idéologique et dans les mêmes fondations?
C'est ce qu'on va voir en fait dans les prochaines semaines. Ouais. Moi personnellement, je suis très peu optimiste, puisque le président de la fédération, du coup Luis Rubiales, a ses têtes et il compte pas les changer en fait. C'est pas vraiment dans ses plans de vouloir tout révolutionner, et y compris ce fameux football de formation, etc. Pour lui, c'est comme ça et on va pas trop changer. Après, des échos qu'on a, c'est qu'il voudrait changer, il voudrait que Luis Enrique parte. Après, moi, même, personnellement, je ne suis même pas convaincue que lui-même veuille continuer.
Okay.
Parce que là, tout ce qu'il va prendre médiatiquement, c'est très lourd à encaisser. Et même si on sait qu'il est très solide, à un moment donné, ça reste une personne humaine. Donc voilà. Le problème aussi, c'est les noms qui sont évoqués derrière. Parce que les noms qui sont évoqués pour remplacer Luis Enrique, c'est Marcelino, donc du football de transition en 4-4-2. Pour moi, c'est impossible de jouer comme ça avec la Roja, avec les meilleurs joueurs espagnols, en fait. Sinon, il faut prendre les joueurs qui jouent globalement à la Real Sociedad ou à l'Athletic, ou même à l'Atlético, mais il y a très peu d'Espagnols à l'Atlético. Mmh. Et ce n'est pas les meilleurs joueurs. Donc, il y a cette chose-là à repenser aussi. Et en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une... Parce que comme là, Luis Enrique a construit un groupe vraiment avec ses jeunes joueurs, etc., qui avait but, il avait pour but de les emmener assez loin dans ce mondial. Ça n'a pas marché. Il faut qu'il y ait un projet à long terme, et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Quel style de jeu on veut? Et ça ne va pas être, on prend le premier entraîneur qui est disponible sur le marché, on l'envoie et basta. Parce que là, on a une génération qui arrive en Espagne, qui est quand même très très belle.
C'est vrai.
Il y a des choses à faire, et quand j'entends des noms comme Roberto Martinez qui s'est foiré avec la génération dorée belge, c'est un peu décevant en fait. On a plus d'ambition que ça pour cette Roja, pour des joueurs comme Gavi, Balde ou Pedri du coup. Donc en fait, c'est plus un projet au long terme qu'il faut que la Fédé repense, et pour laquelle je ne suis pas très optimiste.
Dernier mot peut-être, parce que tu nous l'as dit dès le début, il y a cette opposition catalane, Real Madrid. Cette équipe-là était très imprégnée du FC Barcelone. De nombreux noms que tu viens de donner sont tous issus de la Masia. Quelle place peut avoir le Real, à l'inverse, dans le redressement de ce football espagnol? On sait que ce n'est pas un club formateur, ou en tout cas un club qui donne beaucoup la chance à des jeunes de par son profil et de par son histoire. Est-ce que le Real peut réintégrer un petit peu cette équipe de la Roja et devenir aussi, faire un peu contrebalancier à ce FC Barcelone surdominant?
J'y crois pas trop.
Ok.
Parce que les seuls joueurs espagnols qu'il y a au Real, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps. C'est des joueurs qui, certains sortent du centre de formation, mais du coup, ils sont sortis il y a quasiment 20 ans du centre de formation. Enfin, j'abuse un peu, mais voilà. Et les seuls bons jeunes qui sortaient du centre du Real ont tous été vendus.
Ouais.
D'ailleurs, Hakimi, c'est lui qui marque le penalty. Non, je pense pas. Et puis, même globalement, en fait, j'ai l'impression que ça amuse presque des présidents comme Florentino Pérez de voir cette sélection, du coup, avec très peu de joueurs du Real, se cracher comme ça. Lui, il est en conflit avec la fédération, il est en conflit avec Tebas. Donc, en fait, ça l'importe assez peu, je pense, en tout cas, que la sélection se relève, tant que ce sera ces hommes-là à la tête des institutions. Et puis d'ailleurs, si on regarde du côté de Madrid, le centre de formation qui commence à prendre le pas, et surtout dans les joueurs formés, finalement c'est l'Atlético qui commence à sortir des bons petits jeunes, etc. Le Real a toujours très peu d'intérêt pour sa formation, et il voit plus une manne financière qu'autre chose, et aucun intérêt pour faire grandir ses jeunes et les emmener derrière, en tout cas en équipe première.
Sacré tableau dressé ici par Anna. On suivra évidemment l'évolution du football espagnol à travers Tour d'Europe toute la saison, Anna. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Tour du Monde. On va se retrouver dimanche après les quarts de finale. D'ici là, vous avez rendez-vous avec le FC Stream Team de Maxime Dupuis et Martin Mosnier pour évoquer l'équipe de France qui attend l'Angleterre en quart de finale. On remercie Anne à la réalisation et Marco au visuel. Et on vous dit à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.